Quatrième, histoire, le vocabulaire. Alors, je vais présenter le vocabulaire comme à chaque fois par sous-thème. Je vous rappelle qu'on a trois sous-thèmes dans ce premier thème. Et puis, rappel important, on apprend le vocabulaire en le comprenant. Ça ne sert à rien d'apprendre sans comprendre. Donc deux méthodes, soit vous apprenez par cœur mais vous comprenez, soit vous retenez avec votre propre vocabulaire et vous pouvez très bien définir le vocabulaire avec vos mots. Alors, un armateur, c'est une personne qui finance l'équipement d'un navire marchand, donc que ça soit en termes d'hommes ou en termes de matériel. La bourgeoisie marchande, elle va du grand commerçant en lien avec l'Amérique ou les comptoirs de l'océan Indien, aux marchands spécialisés dans le commerce des céréales, du vin ou des draps entre plusieurs régions, ou aux marchands de luxe vendant draps de laine ou de soie, épices ou vaisselle précieuse à ses clients. Le commerce en droiture, c'est la circulation de marchandises en ligne directe entre le port de départ et le port d'arrivée. Elle concerne l'Amérique et l'Asie. Le commerce triangulaire, c'est un circuit commercial suivant un trajet de forme donc triangulaire dans l'océan Atlantique. Les marchands partent d'Europe avec leurs navires remplis d'alcool, d'armes et de produits de faible valeur. Ils les échangent contre des esclaves en Afrique. Ils vont ensuite aux Antilles pour les vendre, vendre les esclaves, puis ils reviennent en Europe avec des produits tropicaux qu'ils ont achetés, sucre, cacao. Un comptoir, c'est un établissement de commerce installé à l'étranger et correspondant à une escale maritime. Économie de plantation. Une économie de plantation, c'est une économie qui est basée sur la production de cultures comme le sucre, le café, le coton, à l'aide d'une importante main-d'œuvre constituée jusqu'en 1848 d'esclaves pour la France. L'esclavage, c'est le système dans lequel des êtres humains, les esclaves, sont la propriété d'autres, les maîtres, qui ont le droit de vie et de mort sur eux. Un esclave est esclave jusqu'à sa mort. Il peut avoir la possibilité de se marier et donc d'avoir des enfants si le maître est d'accord et les enfants qui naissent deviennent automatiquement de nouveaux esclaves. Un négociant, c'est un marchand qui fait du commerce en très grande quantité et à l'échelle internationale. Les négociants forment un groupe puissant dans les grandes villes. La plantation ou une plantation, c'est une grande exploitation agricole fondée sur la monoculture, une seule culture, par exemple la canne à sucre ou le café, où la main-d'œuvre est composée essentiellement d'esclaves, dans le cas des Antilles ou de l'Amérique. La traite négrière, ça sera la dernière notion pour ce premier sous-thème, c'est donc le commerce de femmes et d'hommes africains noirs capturés puis vendus hors d'Afrique à des propriétaires blancs esclavagistes. Alors ils sont capturés, ils peuvent être aussi parfois achetés. On avait également en Afrique des Africains qui eux-mêmes faisaient commerce d'esclaves en les vendant aux Européens blancs. Deuxième sous-thème, l'Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme. Alors, tout d'abord, la définition d'encyclopédie, c'est l'ouvrage où l'on expose méthodiquement l'ensemble des connaissances universelles à un moment donné. Les Lumières, nom propre avec un L majuscule, c'est le courant de pensée européen du XVIIIe siècle, développé par des philosophes, des scientifiques et des artistes, mettent en avant les Lumières de la raison, qui par la connaissance et l'esprit critique sont la condition du progrès et du bonheur des hommes. C'est donc un mouvement important qui va s'opposer autant à une certaine noblesse qu'à la religion et notamment à la religion chrétienne. La monarchie absolue, c'est le régime politique dans lequel un seul homme, le roi, détient presque tous les pouvoirs. La monarchie parlementaire, c'est un régime politique où le roi partage le pouvoir avec un parlement, c'est-à-dire une assemblée élue. Le plus souvent, l'assemblée dispose du pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir qui permet de faire les lois. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre est l'exemple le plus abouti de la monarchie parlementaire. On aura, durant la Révolution française en France, donc, des essais d'une monarchie parlementaire durant quelques années. Philosophe. Le philosophe ou la philosophe, c'est un intellectuel, ça peut être un homme ou une femme, qui cherche à comprendre le monde uniquement par l'usage de la raison. Les salons. Alors les salons, ce sont des lieux de réunion souvent tenus par des femmes, de la noblesse et de la bourgeoisie, où se rencontrent des savants, des philosophes, des artistes, pour échanger leurs idées, pour débattre. Enfin, dernière notion, pour ce sous-thème 2, une société d'ordre. Avant 1789, en France, la société est divisée en trois ordres. Ça, c'est important, trois ordres, trois groupes. Le clergé, premier ordre. La noblesse, deuxième ordre. À eux deux, ils forment à peu près 3% de la société. Ils concentrent la richesse et le pouvoir, et ils sont les seuls à avoir des privilèges, notamment, ils payent moins d'impôts que le troisième ordre. Donc le troisième ordre, c'est tout le reste de la société. On dit que c'est le tiers-état, troisième état, qui est donc qui correspond à 97% de la société. Et dedans, on a des bourgeois, comme on a des paysans, comme on a des pauvres. Ils ont deux points communs. Le premier, c'est qu'ils paient de nombreux impôts, et donc ils n'ont aucun privilège, contrairement au clergé et à la noblesse. Donc il faut absolument retenir que cette société d'ordre, avant la Révolution française, avant 1789, c'est véritablement une société inégalitaire. Nous terminons avec le troisième sous-thème, la Révolution française et l'Empire, nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe. Tout d'abord, les cahiers de doléances. Donc, ce sont des cahiers qui ont été rédigés à l'occasion de la convocation des États généraux par Louis XVI pour faire connaître au roi donc les sentiments et les attentes des Français. Ils annoncent donc la Révolution française. Constitution. Une constitution, c'est la loi suprême qui définit l'organisation des pouvoirs législatifs, donc celui de faire la loi, des pouvoirs exécutifs, celui d'exécuter les lois, c'est-à-dire de décider, et des pouvoirs judiciaires, de faire appliquer la loi. Les États généraux, on en a parlé il y a un instant, c'est l'assemblée des représentants des trois ordres, noblesse, clergé, tiers-état, convoqué par le roi pour régler ses difficultés financières. Alors, lorsque Louis XVI va convoquer en 1789 les États généraux, il faut savoir que les États généraux n'avaient jamais été convoqués depuis 1614. Le principe des États généraux, on a trois ordres, et lorsque l'on vote, eh bien, chaque ordre dispose d'une voix. Alors, c'est important à bien comprendre ça et à retenir, parce que la noblesse et le clergé ayant des privilèges, ils ont tout intérêt à voter ensemble de la même manière. Ce qui veut dire que ça fait toujours deux contre un, le tiers-état est toujours perdant. Or, il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Lorsque Louis XVI va convoquer les états généraux, eh bien, le tiers-état va refuser de faire ce comptage par ordre, mais et donc ça sera, on le verra, le début véritablement de la Révolution française. Les Girondins, G-I-R-O-N-D-I-N-S, ce sont les députés républicains modérés. On verra que cette révolution, elle est compliquée. On a des révolutionnaires qui sont très révolutionnaires, on les appelle les Jacobins, et puis on a des révolutionnaires qui sont un petit peu moins révolutionnaires, on dit qu'ils sont modérés, et bien ce sont les Girondins. La monarchie constitutionnelle, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir du roi est défini et limité par la Constitution. Alors, on vient de parler des Girondins, on a les Montagnards, j'ai parlé aussi des Jacobins tout à l'heure, donc les Montagnards, ce sont les députés républicains qui vont siéger à gauche par rapport aux Girondins, sur les gradins les plus hauts de la Convention, et eux, ils sont sensibles aux attentes du peuple, c'est-à-dire qu'ils sont très révolutionnaires, ils s'appuient notamment sur les Parisiens qu'on appelle les sans-culottes, c'est-à-dire ils ne portent pas la culotte comme les nobles ou les bourgeois, mais ils portent un pantalon, d'où cette appellation de sans-culottes. Et ces montagnards, notamment, sont favorables, eh bien, à beaucoup plus d'égalité et notamment à un nouveau système politique qui repose sur la République. On arrive justement donc à la République. C'est un régime politique où le pouvoir est exercé par des représentants qui sont désignés par le peuple. Les citoyens y participent en votant et peuvent se présenter aux élections. C'est donc le régime, je vous le disais, qui est revendiqué par les montagnards qui prendront durant un temps le pouvoir en 1793-1794 durant la Révolution française. Les sans-culottes, on vient d'en parler, c'est le nom qui est donc donné aux révolutionnaires issus du peuple parisien qui ne portent pas la culotte comme les aristocrates ou les bourgeois, mais le pantalon. La société d'ordre, on l'avait déjà évoqué, donc société d'ordre avec un S, c'est les groupes sociaux qui composent donc la société d'Ancien Régime avant la Révolution française. Donc, je le répète, hein, il y a deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse qui ne payent pas l'impôt au roi, et un ordre non privilégié, le tiers-état, composé des bourgeois, du peuple des villes, des paysans, qui eux paient l'impôt au roi. Le clergé représente à peu près 1% de la société, la noblesse 2%, donc à eux deux, ils représentent 3% de la société, ils ont les privilèges, et le tiers-état, lui, c'est 97% de la société. Donc évidemment, lorsqu'on vote, vous comprenez bien que si le tiers-état représente 97%, lors d'un vote, il devrait être, en termes de représentativité majoritaire sur le clergé et la noblesse. Mais si par contre vous faites un vote uniquement par ordre, eh bien ça fait 2 contre 1, et à ce moment-là, le tiers-état ne peut jamais avoir gain de cause. Le suffrage censitaire, C-E-N-S-I-T-A-I-R-E, c'est le droit de vote réservé aux citoyens qui paient un impôt, qui paient un certain montant d'impôt, c'est-à-dire que vous avez le droit de voter à condition que, par exemple, vous ayez payé 1000 francs d'impôt dans l'année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui permet de ne faire voter que les riches. Donc, tout le monde a le droit de voter chez les hommes, mais à condition d'être riche. Enfin, on termine avec deux autres définitions, le suffrage universel, donc qui s'oppose au suffrage censitaire. Cette fois-ci, donc, tout le monde a le droit de voter, quel que soit votre niveau de revenu, riche ou pauvre. Attention, on a le suffrage universel masculin, où en fait les femmes sont écartées, et c'est ce qui va se passer en France, hein. Et puis le suffrage universel, bon, d'aujourd'hui, hein, c'est hommes et femmes ont le droit de voter. La terreur, pour terminer, avec un T majuscule toujours, c'est la politique qui a été adoptée par le comité de salut public en 1793, suspendant toutes les libertés afin d'éliminer les ennemis de la nation. On a une période très compliquée durant cette Révolution française où on a une guerre civile qui se déclenche en France, on a une guerre contre les royaumes européens frontaliers à la France. La Révolution est donc en danger et les montagnards prennent le pouvoir et vont donc imposer par la force, par la peur, par la terreur, cette Révolution française pour en partie, je dirais, la sauver.